Bref, vous partagez ce soir une réflexion sur le renoncement. Quand nous venons en retraite, nous faisons acte de renoncement et on renonce à beaucoup de choses. Il y a le renoncement, c'est un des paramitas. Et les paramitas, ce sont des qualités de pureté de l'esprit. Et lorsqu'ils sont exprimés par l'acte ou par la parole, ils ont un effet de purification. Et je ne sais plus où j'avais trouvé ça, je crois bien, Cheaters, il y avait toute une série de petites paroles liées à ces différentes qualités, dont la sagesse en est une, l'équanimité, la bienveillance, la patience, la détermination, l'authenticité, il m'en manque un ou deux, mais voilà, des qualités de ce genre. Et pour le renoncement, c'était écrit « Tout comme une personne jetée en prison ne désire qu'une seule chose, en sortir, le renoncement, c'est la soif de sortir de la prison de l'impermanence. » Et sortir de la prison de l'impermanence, c'est cette soif pour le un, et d'une certaine manière, le un ou l'ultime est très très lié à la pleine conscience. Si je peux rester toujours dans ce regard bienveillant et objectif par rapport à moi et à l'autre, dans l'instant, je ne suis pas dans la prison de l'impermanence, parce que la pleine conscience, c'est ce qui peut être permanent. C'est la seule chose qui puisse être permanente, le fait de voir. Alors en retraite, on a ce renoncement du corps, de la parole, de nos actes qui sont limités par l'horaire. Et ça n'est pas quelque chose de normal, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce qui est normal dans notre vie ordinaire, ça n'est pas le renoncement, c'est l'attachement. Et nous pouvons voir comment nous sommes liés au temps, nous avons toujours des projets, nous sommes liés à ce sens du devenir, je veux devenir heureux, mais si je veux devenir heureux, c'est bien que je ne le suis pas. Je veux atteindre un objectif ou solutionner un problème. C'est ok, c'est la vie, c'est le monde conditionné, le monde de la dualité, où je crée toujours ce que j'aime, ce que je n'aime pas, le bien, le mal, moi, toi, nous, les autres. C'est beau, mais c'est la prison de l'impermanence, parce que nous avons ce désir impossible que le monde que nous aimons, que ce que j'aime reste, que ça demeure à jamais. Donc le renoncement, c'est cet abandon à cultiver, l'abandon de nous mettre en opposition avec l'expérience. L'intérêt, c'est un des facteurs de l'éveil qui est tellement important, avoir de l'intérêt pour moi, pour l'autre, de l'intérêt. Quelle est l'expérience? Et c'est pas parce que nous avons pratiqué longtemps que le corps devient immobile et tranquille tout le temps. Évidemment, quelque chose s'ancre, mais la différence ne vient pas de l'expérience, la différence vient vraiment de cet abandon. Je me souviens, l'année passée, j'ai fait une retraite zen chinois. Et il y avait longtemps que j'avais pu expérimenter l'agitation corporelle, et j'ai vu tout de suite D'abord, quoi? Ma tranquillité qui m'est enlevée? C'est quoi cette histoire? Un vague désir de me mettre en opposition. Et puis, tout de suite après, la sagesse qui... Arrête, ma doudoune, lâche. Et j'ai vraiment senti que quelque chose faisait ça et le corps restait agité, mais il n'y avait pas cette deuxième flèche dont parle le Bouddha, qui est la flèche de la saisie. La flèche de la saisie de l'expérience, c'est moi, j'aime ou je n'aime pas. Et avec l'exercice de la méditation, au début, ça prend un peu de temps, on reste assez longtemps dans l'expérience douloureuse avec la saisie et l'identification jusqu'à ce que ce soit possible de renoncer. Les douleurs du corps, le mal-être, hein, dans une journée de méditation, c'est fort. Et personne jamais n'aime avoir mal. Nous n'aimons pas avoir mal. C'est pas que nous allons prétendre aimer ça. Mais la pleine conscience est plus puissante que l'expérience. Donc quand la pleine conscience est développée, l'expérience perd complètement cet aspect envahissant, prioritaire et identifié. Alors le renoncement, ou la réactivité, c'est ce que nous avons à voir, hein, longtemps, longtemps dans l'exercice de la méditation. Le Christ sur la croix, quand il a dit, quelquefois ça me vient, hein, Père, m'as-tu abandonné? C'est que cette réactivité venait encore, de nouveau. Elle est aussi profonde que l'éveil. Juste pas tout à fait autant. Il y a donc une confiance à avoir ou à développer. Et le renoncement, certains partageaient comment le fait d'abandonner l'essai de faire quelque chose pour pouvoir exister dans l'instant, mais de juste laisser faire le dharma à l'intérieur du corps et du cœur et du mental. Ne plus essayer toujours. Laisser être l'expérience. C'est quelque chose qui est plus ou moins réalisé, mais qu'il est bon d'explorer. Parce que si je n'arrive pas à sentir ce que c'est que je sais exactement ce que c'est. Je ne l'ai peut-être pas encore vraiment vécu, mais je ne pourrais pas savoir que ce n'est pas là. Si je n'avais pas intuitivement la perception de ce que c'est que de pouvoir vraiment laisser le corps être habité par l'énergie universelle. Et ça, c'est une expérience directe de renoncement. Comme nous l'avons vu hier par rapport aux pensées, de renoncer aussi à éviter perpétuellement de rencontrer le processus conceptuel, apprendre à le nommer tel qu'il est, apprendre à nommer les émotions telles qu'elles sont. Tout ça, c'est le chemin vers le renoncement. Je vous lis Ajahn Sumedho. Quand vous essayez de vous débarrasser de la peur ou de la colère, que se passe-t-il? Vous devenez simplement agité ou découragé et vous ne pouvez pas vous empêcher d'aller manger ou fumer ou boire ou faire quoi que ce soit d'autre. Il y a beaucoup d'autres choses à faire, hein, en retraite. Je peux me mettre à penser, ça c'est un très bon moyen. On en a beaucoup. Réfléchissez auquel vous employez. Mais si vous attendez et que vous supportez l'agitation, l'avidité, la haine, le doute, le désespoir ou l'envie de dormir. Si vous observez ces conditions, au moment où elles cessent, vous atteindrez une sorte de calme et de clarté mentale auquel vous ne parviendrez jamais si vous êtes toujours en train de courir après quelque chose d'autre. C'est tellement important de comprendre ça. Je veux le calme, ça ne marche pas. Je vois l'agitation et je me détends avec. Après, il y a la grâce, peut-être. Le renoncement, c'est donc d'abord ne pas croire que c'est faux ce qui est là, ce réel-là est bon, même s'il est très désagréable à identifier, c'est par là que passe le chemin, il ne peut pas passer ailleurs. Et que si je commence à comprendre ce chemin, je comprends que le laisser être est le moyen d'avancer, de faire encore un pas. Et c'est une exploration. Alors certains explorent, je me souviens, moi je faisais ça, il y avait le grand moi qui parlait au petit moi. J'avais toujours ce grand moi qui parlait au petit moi. Mais oui, mon doudou, naît, fais comme si ce sera bien. Ou bien je te conseille, ou bien fais plutôt, va plutôt là. Certains ont des guides ou des anges pour leur explorer avec eux le chemin. Chacun a sa manière et elle est bonne. C'est ça l'intelligence intuitive. Et une fois que cette dualité a été suffisamment travaillée, c'est une dualité que je crée consciemment et qui est très utile. C'est comme si la sagesse parlait à l'ignorance. Et à un moment donné, il y a ce renoncement, cet abandon. Je me souviens, dans une retraite, j'avais toujours ce moi qui parlait à moi, ce grand moi ou petit moi. Puis à un moment donné, j'ai dit, bon, ben maintenant, grand moi, c'est bon. Petit moi, tu peux faire ce que tu veux. Et j'étais toute étonnée parce que le petit moi faisait tout exactement comme le grand moi voulait. Et alors, on se rend compte que nous créons cette dualité entre la sagesse et l'ignorance. Mais qu'au fond, l'ignorance n'est que l'inaccompli qui me pousse vers la sagesse, et qu'il n'y aurait pas de sagesse sans ignorance et pas d'ignorance sans sagesse. Il y a cet abandon progressif de l'identification à l'expérience, et c'est un grand travail d'humilité. J'aime beaucoup cette parole. Je l'adore. Donc, ceux qui l'ont entendu plusieurs fois, peut-être qu'ils l'aiment aussi. C'est le Saint Petit. Dans un livre qui s'appelle Le Saint Petit Placide, je ne sais plus quelle. Je crois que c'était une nonne chrétienne. L'homme fort est celui qui s'est enfoncé profondément dans la faiblesse du Christ. Écroulement de la force factice, du plein de soi, de l'agitation ridicule de la fourmi qui croit bâtir le monde. Tout anéanti, il dit « Seigneur, je ne peux plus rien. » Et à mesure que s'écroulait sa force humaine, la force de Dieu le remplissait. C'est un bel abandon. Cet abandon à la conscience universelle. Je ne suis rien. Et puis franchement, c'est vrai. L'autre jour, il me vient une anecdote, l'homme fort. L'autre jour, il y a eu un problème entre mes deux petits-enfants, deux mecs, un de 3 et un de 4 ans. Ils voulaient un objet que l'un des deux avait. Puis ça pouvait pas passer parce que celui qui l'avait voulait absolument pas le prêter. Et puis celui qui voulait l'avoir voulait absolument l'avoir. Alors bon, ils se sont battus, carrément, battus. Et puis, il y en avait un d'un côté, puis un de l'autre. Et puis, je demande à Joulane, mais enfin, Joulane, pourquoi tu prêtes pas ton truc à Luca? Eh ben non, il est à moi. Luca, pourquoi tu le laisses pas un moment à Julien et te le prêtera plus tard? Non, je le veux maintenant. Et puis, je sais pas comment, à un moment donné, je leur dis, mais c'est pas sympa de vous taper comme ça dessus pour un objet, vous êtes les meilleurs copains du monde. Puis il y a Julien qui me dit, eh ben tu sais, oui, mais tu sais, les garçons, c'est fort, hein, ça se bat. Tu sais, les hommes, ça fait la guerre. Ah, j'étais un peu prise au dépourvu, hein. Pour lui expliquer ce que c'est que l'homme fort. Je lui ai dit, ouais, ben, peut-être que toi, tu connais des mecs comme ça, qui sont, tu trouves que ça, c'est la force, mais moi, je connais des hommes qui sont des vrais hommes, et puis qui sont forts, mais autrement. Mais on rit, hein, mais on a nos jouets. Est-ce qu'on les prête? Combien est-ce qu'on les prête? Combien est-ce que nous y sommes attachés? Comment est-ce que nous savons renoncer? Le renoncement dans les monastères, c'est quelque chose qui est visible extérieurement. Les moines ont une robe, un bol. Le rythme est clair au niveau de la journée, au niveau de l'année. Tout est ritualisé. La vie est extrêmement simplifiée. Ça ne veut pas dire pour autant que tout le monde est éveillé, mais j'ai personnellement une grande gratitude pour les enseignements laïques qui permettent d'entrer dans ce chemin de renoncement tout en restant dans la vie. Et de comprendre que c'est possible. Dans la vie, nous avons tellement de choix. Au niveau de l'art, des loisirs, de la culture, des différentes, du développement personnel. Qu'est-ce que je veux faire comme travail psychologique ou spirituel? Des conditions différentes. Et en méditation, il y a ce cadeau où je peux renoncer à nourrir les sens. Toute cette nourriture, elle vient dans la simplification. Et en fait, ce que je travaille dans une retraite, ça a un effet après dans le monde, où il y a tous ces choix. Quelque chose fait que je me perds plus autant parce que je peux rester dans l'ancrage. Ce que nous cherchons, c'est ça, c'est cet ancrage. Où je peux continuer à laisser faire et à lâcher prise. Le renoncement, ça n'est pas le renoncement au plaisir, mais c'est le renoncement aux 3 A, attachement, aversion et aveuglement. Renoncer à succomber. Et pour renoncer, il faut nous laisser sentir chaque fois qu'il n'y a pas de renoncement. Quand il y a renoncement, d'une certaine manière, il y a un peu d'humour, nous nous prenons moins au sérieux. Quelque chose devient large. J'ai vécu ça cet après-midi, c'était chouchou. Je suis montée aux Arlaches, là il y a une... C'est très beau quand on arrive tout en haut. Et puis il y a un dernier petit pic comme ça. Puis il y avait la vue, puis je me suis dit, oh, mais je vais monter sur ce dernier petit pic. Seulement je commençais à être courte un peu avec l'heure. Alors tout d'un coup, je me suis sentie à l'étroit, coincée entre deux soifs. Mon avidité pour aller voir le paysage et mon sens du devoir pour être à l'heure pour la méditation. Oh, j'avais vraiment envie de voir ce paysage. Puis j'avais vraiment envie de ne pas être en retard. Et c'était très intéressant ce moment de pleine conscience où la soif tenait, elle tenait. Et puis après, je me suis dit, oh, Foucault, voilà, il y en a. De toute façon, tu ne peux pas avoir les deux, il y en aura un des deux qui sera frustré. Bon, finalement, peu importe lequel c'est, tu ne vas pas mourir ni dans l'un ni dans l'autre. J'ai réussi à faire les deux. Le renoncement au désir, c'est intéressant parce que ça n'est pas l'ennemi à abattre, le désir, mais c'est une énergie à employer. Quelqu'un partageait le fait de pouvoir prendre soi-même la décision, plutôt d'avoir le choix, moi je le dis plutôt comme ça. D'avoir le choix, j'ai le choix. Si je fais ça, ben ça fait ça. Si je fais ça, ben ça fait ça. Qu'est-ce que je choisis tranquillement? Il n'y a pas de sens du moi. Ce renoncement au désir, ça n'est vraiment pas de ne plus en avoir, mais c'est de ne pas en être le serviteur, de ne pas le laisser mener ma vie. Et ça demande de la bienveillance avec moi. J'aimerais juste reprendre courtement, parce que quelqu'un me le partageait en entretien, ce passage où soit il y a la présence de la soif, du désir, et après un agrippement du désir, et l'implication, c'est que le sens du devenir arrive. Au lieu que je sois, si je prends mon exemple cet après-midi, je montais tranquillement mon pâturage, tout allait bien, impeccable, puis tout d'un coup, ça y est, il y avait cette vue. Et pourquoi est-ce que j'avais besoin de voir cette vue? Ça a tout fiché en l'air, en fait. J'étais tranquille. Alors, hop, il faut que je voie cette vue. Alors après, le sens du temps et le sens du devenir. Et après, l'acte qui suit cette énergie-là. Et si la soif est conscientisée, qu'elle n'est pas identifiée, l'agrippement ne va pas être identifié, il y a comme une cessation de l'agrippement, une cessation du devenir, quelque chose énergétiquement, parce que tout ça se passe énergétiquement, quelque chose se pose, finalement que je devienne ça ou ça, peu importe, et l'acte est complètement transformé au niveau énergétique. Il y a donc nos petits renoncements. Nous sommes attachés à nos jouets. En méditation, nous voulons renoncer à penser, nous voulons avoir une bonne concentration, nous voulons trouver l'unification. Ce sont des jouets sacrés, mais ce sont des jouets quand même. Ils sont impermanents. Et le grand renoncement, c'est le renoncement à moi, au sens du moi lui-même. Je vous lis une petite parole de Nasruddin. Je pense qu'elle est très drôle. Un jour, Nasreddin arrête un passant dans la rue, mais ça montre bien le renoncement, au moins. Il a vraiment renoncé, au moins, lui. Un jour, Nasreddin arrête un passant dans la rue et lui demande « Un instant, s'il te plaît, est-ce que nous ne nous sommes pas rencontrés l'an dernier à Eskişehir ?»« Non, c'est impossible, répond l'homme qui s'apprête à repartir. « Et pourquoi donc ?» demande Nasreddin. « Pour la bonne raison que je ne suis jamais allée à Eskişehir. »« Ah ! » Ah ben, moi non plus d'ailleurs, dit Nasreddin. J'ai dû confondre avec deux autres. Alors, comment réaliser ce grand lâcher-prise du moi? Pour certaines personnes, ça se fait subitement parce qu'il y a comme un éveil merveilleux. Ils ont de la chance. On n'en a pas beaucoup. Pour la plupart, ça se fait progressivement. Et la connaissance du qui suis-je, c'est le chemin proposé par le Bouddha. Simplement, tranquillement arriver à la connaissance de la totalité du qui suis-je. Je ne suis pas je. Je ne suis pas je. Ce corps, je dis je depuis que j'ai 3 ans. Je le dirai encore quand j'en aurai 80 ou 90 peut-être, si je ne suis pas morte. Mais Dieu sait s'il est différent, ce je. Et je dis chaque fois je. Je ne suis pas je. Mais j'emploie je pour comprendre. Pour comprendre, pour réaliser la conscience universelle, la réalité ultime. Et j'accepte que je sois ce qu'il est. Il n'est pas parfait. Il a ses manques, il a ses compétences. Et j'accepte que le je de l'autre ne soit pas parfait. Qu'il ait ses manques et ses compétences. Grande patience avec moi. Quand je réalise quelque chose, même si je ne peux pas encore l'actualiser, c'est que je suis en route. Ça se fera. Il faut juste un peu de patience. Et une détermination pour faire le travail, pour s'exposer. Et c'est vrai que le lâcher-prise peut faire peur. Je peux avoir l'impression que je perds quelque chose. Mais la seule chose que je perds, c'est l'ignorance. Simplement, je ne le sais pas, pas tout à fait. Alors, l'expérience est en même temps attirante et effrayante parce que il y a encore ce je qui ne veut pas souffrir, qui ne veut pas perdre la face, qui ne veut pas avoir tort, qui a tellement peur d'être rien. Mais c'est un grand mystère parce que ce bonheur, cette reconnaissance, cette appartenance au tout, elle est déjà là. Qu'est-ce qui fait que tout à coup j'oublie tellement que j'ai l'impression que je me mets en dépendance de l'expérience, en dépendance de l'autre. J'ai besoin que ce soit comme ça pour être sauvé. Le renoncement, c'est cette compréhension-là. Je vois tout ça. Et peu à peu, je me rends compte que renoncer à être aimé, c'est l'amour. C'est un travail sacré. D'engagement, d'authenticité, de persévérance, de courage. Et ça donne des fruits. Ça donne des fruits qui sont des fruits d'équanimité, de joie, de simplicité, d'ouverture. Pas toujours, mais souvent. Et la concentration, lorsque nous arrivons à ces états de concentration où il n'y a qu'un objet de conscience, à l'exclusion de tout autre, et où le corps est posé, l'expérience est vaste, claire, bienfaisante, ancrée, silencieuse, c'est un aperçu de la libération, c'est un aperçu. C'est anicca, c'est impermanent. Mais l'expérience elle-même est une expérience qui ressemble à la libération. Le problème avec ces joies spirituelles, c'est qu'elles sont difficiles à lâcher. J'ai pas envie du tout de renoncer. Ça, c'est trop bon. Non, alors passe, alors vous n'allez pas m'enlever ça, s'il vous plaît. Nous n'avons pas besoin de forcer, mais c'est important de sentir que le renoncement, c'est un renoncement total qui nous est demandé. Ajahn Chah dit, lorsque tu n'es plus attaché au bonheur, tu commences vraiment à être heureux. Mais c'est pas quelque chose, j'ai beau le savoir dans la tête, il faut le réaliser dans le corps, et ça, ça prend du temps. Du soin. Alors nous nourrissons le moi pour qu'il puisse lâcher. Nous le nourrissons de bienveillance, de silence. Nous essayons de le nourrir affectivement, en ayant cette bienveillance les uns pour les autres, qui n'est pas toujours une tendresse simple. Quelquefois, nous nous frottons les uns aux autres et c'est bienfaisant. Parce que l'intention derrière, c'est une intention de grandir intérieurement, d'être libre. Lorsqu'il y a en priorité cette présence de la pleine conscience, de l'observateur silencieux dont parle Krishnamurti, il y a espace, silence, sagesse. Je n'oublie pas l'espace. Ok, je suis dans le corps, mais il y a aussi l'espace. La souffrance perd sa... la menace. Et alors, nous pouvons renoncer à réagir. C'est Durkheim qui dit que l'homme sache souffrir et non qu'il ne souffre plus est la preuve qu'il est parvenu à son centre. vu sous l'angle de l'être essentiel, vaincre la souffrance signifie être capable de souffrir sa peine. Ça ne veut pas dire baisser les épaules, puis baisser la tête, puis courber les épaules. Hein? Pas du tout. Ça veut dire s'ouvrir à la pleine conscience. C'est un renoncement gai. C'est un renoncement où nous gagnons le monde. Ça demande une sensibilité à ma souffrance, à la souffrance du monde. De la compassion. Quelqu'un partageait sa pratique du Tonglen. Quand je sens la souffrance en moi, le non-renoncement, l'attachement, je prends cette énergie sous forme de fumée noire et je donne la fumée blanche. Et je peux le faire encore et encore, pour moi, pour les autres. C'est une belle pratique de la compassion. Parce que j'ai à l'intérieur de moi, nous avons tous à l'intérieur de nous-mêmes, cette compétence de retournement. Comprendre, renoncer et entrer dans la compassion. Le mot compassion est parfois source de malentendus. Dans le bouddhisme, au sens le plus commun, on le définit comme le désir de libérer les autres de leur souffrance. Il y a un sens plus large. L'essence ou l'aspect ultime de la compassion se manifeste lorsqu'on comprend directement la nature de l'esprit. À ce stade-là, il n'y a pas de différence entre celui qui souffre et celui qui compatit. Mais il n'y a pas de souffrance non plus. Puisque celle-ci est clairement perçue comme une illusion. Il n'y a qu'une ouverture totale et constante aux autres. Je pourrais être toi. Ce grand mystère qui fait que je suis moi et que l'autre est lui. La quête spirituelle, c'est une quête d'amour d'une certaine manière. Comment faire pour que je puisse vraiment me sentir aimée par le Dharma? Me sentir aimée de manière inconditionnelle et gratuite. C'est totalement lié à la pleine conscience. Si la pleine conscience s'ouvre, que cette capacité de réceptivité de l'expérience s'installe, la conséquence directe, c'est le sentiment d'appartenance. Renoncer, ça n'est donc pas fuir le monde ou se résigner, c'est au contraire vivre pleinement, mais au bon endroit. Ça ne sert à rien d'aller décorer le balcon alors que la maison tremble sur ses fondements. Et c'est ce que nous faisons tellement souvent. En fait, il s'agit simplement de laisser ce corps, ce cœur et cet esprit disponibles pour que le Dharma, la vérité, puisse faire son œuvre à l'intérieur. Quelquefois, dans l'exercice de la méditation, il y a cette énergie-là. Il y a juste le corps qui est là et je laisse faire. Ça suffirait largement pour toute une retraite. Mais c'est au fait un grand travail. Cette simplicité-là, c'est un grand travail. Que tout le monde connaît. Nous le connaissons tous pour un moment limité. Et après, j'aimerais finir avec une parole de Christiane Singer. Ce qui est bouleversant lorsque tout est détruit, quand il n'y a plus rien, mais vraiment plus rien, il n'y a pas la mort et le vide comme on le croirait. Pas du tout. Je vous le jure, quand il n'y a plus rien, il n'y a que l'amour. Tous les barrages craquent. C'est la noyade, c'est l'immersion. L'amour n'est pas un sentiment. C'est la substance même de la création. Qui inclut l'accompli comme l'inaccompli. Qui est au-delà. Je vous propose de prendre une minute en silence.